Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, aujourd'hui, l'Église nous fait méditer sur la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Thomas étudie la transfiguration à sa place logique, c'est-à-dire avant d'étudier la Passion. L'Église attend que le carême soit commencé pour nous encourager par la contemplation de la transfiguration. J'ai choisi cet ordre-ci plutôt que celui de saint Thomas. Parce que c'est exactement ce que nous dit saint Thomas, que le Christ qui avait annoncé sa passion à ses disciples les avait engagés, dit-il, à suivre une voie de souffrance. Or, on ne parcourt bien la voie qu'en connaissant le but. C'est pourquoi saint Thomas lui avait demandé « Seigneur, nous ne savons pas où vous allez, comment pouvons-nous vous suivre ?» Jésus avait répondu à saint Thomas « Mais je suis la voie, la vérité et la vie. » Malgré tout, il fallait un encouragement supplémentaire en raison de la particulière difficulté de la passion et donc la particulière difficulté pour les apôtres de suivre Jésus dans sa passion. Et c'était d'autant plus important que le but poursuivi n'est pas quelconque, mais un but merveilleux, une splendeur, un bonheur ineffable. Et donc, à cause de cette difficulté de la passion, pas seulement pour lui, bien entendu, mais pour les disciples, parce que, rappelez-vous, 8 fois dans l'Évangile, notre Seigneur dit « Celui qui veut être mon disciple, qu'il me suive, qu'il porte sa croix et qu'il vienne à ma suite. » Qu'il porte sa croix et qu'il vienne à ma suite. Je vous reparlerai peut-être une autre fois de la croix et du sacrifice. Mais c'est très important, cela. Et le saint sacrifice de la messe a pour fonction de nous mettre à la suite du Christ en portant notre croix. Or, dans le carême, nous remettons de l'ordre dans notre vie. Nous reprenons courageusement notre croix. Et donc, il est normal que l'Église nous fasse contempler la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle gloire Jésus-Christ fait-il contempler à ses apôtres ? Notre Seigneur possédait déjà la gloire de l'âme, et il est évident, enfin une double gloire, la gloire de la divinité, bien entendu, et cette divinité illuminait son âme, et donc il y avait dans l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ le rayonnement de la gloire de la divinité, comme ce sera le cas pour nous tous, j'espère bien, lorsque nous arriverons au ciel. Nous serons baignés dans la gloire de la divinité et notre âme sera glorifiée. Par un miracle, Jésus-Christ, sur l'ordre de la providence divine, a suspendu le rayonnement de la gloire de son âme, le rayonnement sur le corps. Pourquoi dis-je que c'est un miracle? Puisque pour nous, ce n'est pas le cas. Parce que nous ne sommes pas encore au ciel. Parce que nous avons la lumière de la foi, mais la lumière de la foi est une lumière qui garde une certaine obscurité. C'est une lumière comme dans un miroir. Ce n'est pas la lumière directe et nous ne sommes surtout pas baignés dedans. Nous devrions. Monseigneur Lefebvre disait « Il ne faut pas seulement avoir la foi, mais avoir l'esprit de foi. » C'est-à-dire, il ne faut pas seulement vivre avec la foi, mais il faut vivre de la foi. Et donc nous, il est normal que n'étant pas encore baignés dans la lumière de Dieu, notre âme n'étant pas encore glorifiée, il est évident que le corps ne reçoit pas de l'âme la lumière de la gloire. Il reçoit une certaine lumière. Monseigneur Lefebvre nous faisait remarquer, à son serment du jubilé, il faisait remarquer qu'en Afrique, on remarquait les chrétiens, et surtout les villages chrétiens, par rapport aux païens, par un certain rayonnement du visage, un rayonnement du regard, du visage, une certaine joie extérieure. Et ça se comprend parce que les païens sont sous l'influence du démon, des sorciers, et donc du démon. Les chrétiens, même s'ils ne sont pas totalement baignés dans la gloire divine, ont quand même cette lumière de la gloire par la foi. Nous voyons quand même un peu les choses. Et si nous ne les voyions pas, nous ne pourrions pas avancer, nous ne saurions pas où nous irions. Notre Seigneur, lui, puisque il est à la fois Dieu et homme, son âme est déjà illuminée. Donc naturellement, la gloire de l'âme devrait redescendre, devrait illuminer le corps de notre Seigneur. Si ça avait été le cas, il n'aurait pas pu accomplir sa passion. Parce que le corps illuminé, évidemment, n'aurait plus été sujet à la souffrance. Puis parce que jamais personne n'aurait osé le toucher. Et donc, par un miracle, il a suspendu, il a bloqué le rayonnement glorieux de son âme sur son corps. Et pour encourager ses disciples, par un deuxième miracle, il suspend ce premier miracle. Pourquoi c'est un deuxième miracle? Parce que cette gloire va être transitoire, elle ne va pas rester. Il aurait pu mettre fin, et c'est ce qui se produira à la résurrection, il mettra fin au premier miracle. Alors là, la gloire de l'âme pénétrera dans le corps et rendra ce corps glorieux. Là, c'est transitoire. Parce que, justement, la passion n'est pas encore accomplie. Saint Thomas pose la question des témoins de la transfiguration. Il fait une remarque très intéressante. Vous avez comme témoins de la transfiguration Moïse et Élie de l'Ancien Testament et Pierre, Jacques et Jean du Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que le Christ mène au ciel par la foi aussi bien ceux qui étaient avant sa venue que ceux qui sont après sa venue. Et ça, c'est très important, mes bien chers frères. Les hommes qui se sont sauvés avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ se sont sauvés par la foi en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de salut que Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, nous dit la Sainte Écriture, qui ait été donné au ciel et sur la terre pour assurer le salut que le nom de Jésus-Christ. L'Écriture sainte nous dit cela. Il est donc certain que tous ceux qui se sont sauvés, quel nombre nous ne savons pas, mais tous ceux qui se sont sauvés avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, voyaient déjà par les yeux de la foi notre Seigneur et sa passion, au moins confusément, au moins par témoignage. Ce qui fait que, entre les Juifs de l'Ancien Testament et les Juifs du Nouveau Testament, il y a une très grande différence. Parce que les Juifs de l'Ancien Testament regardaient vers notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que les Juifs du Nouveau Testament, les Juifs d'aujourd'hui, refusent notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait que nous avons beaucoup de choses en commun avec les Juifs de l'Ancien Testament. Sauf qu'eux avaient la foi dans le Christ à venir et nous avons la chance d'avoir la foi dans le Christ qui est venu. C'est pour ça que c'est grave lorsque les papes actuels parlent des Juifs comme étant nos frères aînés dans la foi. Les Juifs de l'Ancien Testament, oui, mais les Juifs du Nouveau Testament, non. Ils sont les adversaires du Christ, et donc les adversaires des chrétiens. Et encore, parler de nos frères aînés dans la foi, faut faire attention, parce que vous avez Jacob et Ésaü, l'aîné est passé après, et le deuxième est passé devant, parce qu'ils sont les frères aînés, parce qu'ils viennent avant, mais nous, nous avons le Christ, nous suivons le Christ qui est venu, tandis qu'ils l'attendaient encore. La remarque était importante. Et vous avez enfin le témoignage de Dieu le Père. Le Père a porté témoignage de la filiation divine de son Fils. Pourquoi deux fois le Père porte-t-il ce témoignage? La première au baptême de Jésus-Christ, la deuxième au moment de la transfiguration. Parce que deux fois il nous annonce qu'en suivant notre Seigneur Jésus-Christ, nous deviendrons nous aussi fils de Dieu. Nous sommes destinés à être par adoption divine les fils tels que Jésus-Christ l'est lui par nature. Dieu le Père l'annonce une première fois au moment du baptême, parce que le baptême de Jésus-Christ est ce qui nous encourage à entrer dans la voie. Il l'annonce une deuxième fois au moment de la transfiguration, parce que la transfiguration nous annonce l'entrée dans la gloire, l'entrée dans la gloire du ciel. Et cette filiation divine, cette adoption divine est commencée dès notre baptême, et nous sommes déjà dès ici-bas fils de Dieu, mais nous le serons avec une plénitude absolue, parce que pour l'instant, nous poursuivons l'héritage, mais lorsque nous serons au ciel, nous posséderons l'héritage. Voilà qui est très encourageant. Je voudrais faire deux applications. La première, par rapport aux épreuves actuelles de l'Église. Il est évident que le Christ, en donnant ce témoignage, aide les apôtres à le suivre, à porter leur croix à sa suite. Et je vous l'ai dit, ce témoignage nous est transmis pour nous aider, nous aussi, à porter notre croix à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et saint Thomas nous a fait remarquer que ce témoignage était d'autant plus important et nécessaire, d'une part que la croix est lourde et le chemin malaisé, et que la récompense est belle. Il est évident que les épreuves dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, les épreuves de l'Église aujourd'hui, ne sont pas d'une autre nature que toutes les épreuves qu'ont connues tous les chrétiens dans leur vie et que l'Église a connues depuis le début de son histoire. Mais c'est vrai, elles sont d'une plus grande intensité. Et donc, la contemplation de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ nous est d'autant plus nécessaire. Et il faut nous y accrocher. C'est à notre Seigneur que nous nous attachons. C'est à notre Seigneur que nous nous accrochons. C'est lui que nous saisissons. Et plus les épreuves sont difficiles, plus nous devons le saisir, lui, et surtout pas les moyens humains. N'ayons pas confiance dans le monde. Il y a un grand nombre d'oraisons dans la liturgie, surtout d'oraisons après la communion, les post-communions, dans lesquelles l'Église nous fait demander à Dieu d'aimer les choses du ciel et de mépriser les choses de la terre. Et de même pour le salut, il faut nous attacher à la force de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous est communiqué par la croix, et la croix nous donnera la gloire. Et plus les épreuves sont fortes, plus c'est le signe que nous devons tenir pour faibles les moyens humains, même mépriser les moyens humains. Nous ne nous appuyons pas sur les hommes, ni sur nous, ni sur nos propres forces, ni sur les forces des hommes, ni sur qui que ce soit d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième remarque que je voulais vous faire. La lumière qu'ont vue les apôtres, c'est la lumière des yeux. Seulement, elle est le signe de la lumière de la foi et de la lumière de la gloire. Autrement dit, les apôtres ne s'arrêtent pas à la lumière visible. Il est évident que c'est leur intelligence qui saisit la divinité et le mystère. Il est important de rappeler l'importance de l'intelligence. L'homme a été doué par Dieu d'une intelligence qui lui permet d'entrer dans le mystère. Parce que, voyez-vous, si, prenons cet exemple, si un petit chien était sur le mont de la Transfiguration au moment de la Transfiguration, il aurait vu la même lumière qu'ont vu les apôtres, et il aurait entendu la voix. Seulement, ça ne lui aurait rien apporté, parce qu'il n'a pas d'intelligence. Lorsque les apôtres voient, ils savent aller plus loin et remonter à la source. Notre intelligence nous permet de connaître les mystères de Dieu, elle nous permet de connaître la gloire de Dieu, et elle nous permet ici-bas de juger ce qui est conforme à la gloire de Dieu et ce qui n'est pas conforme. Et c'est un drame dans le monde actuel qu'on fait taire l'intelligence et qu'on se moque de ce qui n'est pas conforme à la gloire de Dieu sous prétexte que cela est conforme à une prétendue destinée humaine et prétendument conforme à la nature humaine. En réalité, c'est conforme aux caprices, rien d'autre. L'intelligence nous fait voir ce qui est conforme à l'ordre divin, nous fait entrer dans l'ordre divin. Bien sûr, la transfiguration nous montre le but, et là je suis en train de vous parler de la voie, mais la transfiguration nous guide sur la voie. Et c'est la foi, et c'est l'intelligence qui nous font saisir la voie, qui nous font voir la voie, parce qu'ils nous font voir le mystère. Et le monde moderne est un monde qui s'aveugle, et qui, se croyant très intelligent, en réalité, met comme un plafond de verre, qui met comme une limite. Il y a les choses de Dieu, et puis en dessous, il y a les choses des hommes, et les choses des hommes dépendent plus ou moins des choses de Dieu. C'est comme ça que vivent nos contemporains. C'est comme ça que le Concile Vatican II, le document Gaudium et Spes, les pousse à vivre. Vous avez la foi, c'est très bien, mais les choses des hommes, ce sont les choses des hommes. Alors, non seulement, mes bien chers frères, en contemplant la transfiguration de notre Seigneur, contemplons le but, encourageons-nous à suivre la voie, mais comprenons bien que toutes les affaires des hommes doivent entrer dans cette voie et que c'est notre foi, notre intelligence qui vont nous montrer ce qui est conforme à la gloire de Dieu et ce qui n'est pas conforme. Or, il est évident que le modernisme n'est pas conforme. La vulgarité n'est pas conforme. Le mode de vie d'aujourd'hui n'est pas conforme. Je vous laisse. Demain, je serai au 80e anniversaire de Mgr Williamson. Je pense que vous serez d'accord pour que je lui transmette de votre part vos sentiments de reconnaissance d'abord, d'affection et de fidélité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.